Donc, le thème de cette étape 5, nous avons avoué à Dieu, nous nous sommes avoués à nous-mêmes et nous avons avoué à un autre être humain la nature exacte des torts que j'ai causés et ceux que j'ai subis, ainsi que les conséquences sur mon comportement. Là, vous avez le thème de cette soirée où, après avoir fait l'inventaire, regardez toute notre vie, eh bien, nous avons des colonnes de ce qu'on a subi, des colonnes de ce que nous, on a fait aussi. Donc, des torts qu'on a causés, des torts qu'on a subis, et aussi les conséquences de tout ça sur mon comportement, sur mon tempérament, mon caractère, sur ma façon d'agir. Certains, comme Alain Faure a pu témoigner jeudi soir, eh ben de son comportement, enfin de tout ce qui lui est arrivé dans la vie, il était devenu quelqu'un de très méchant. Hein, la violence était en lui. Donc évidemment que ça a fait des dégâts autour de lui. Et certains, c'est ça. Certains, c'est la violence. Et d'autres, au contraire, ont pu être enfermés, s'enfermer sur eux-mêmes parce qu'ils ont été touchés par de l'abus, hein, des abus verbaux, mais aussi des abus sexuels. Et ils ont tellement honte qu'ils n'en ont pas parlé, mais ça a fait des personnes éteintes. Ça a fait des personnes qui se sont renfermées sur eux-mêmes. Et ça peut durer encore comme ça plusieurs années. Donc vous voyez, nos comportements actuels, pour certains, pour beaucoup, eh ben, viennent de nos blessures du passé. Et tant que ces blessures-là, ne sont pas nettoyées, ne sont pas mises à jour, eh ben, la honte, la culpabilité, pèse sur un être humain. C'est un fardeau sur lui. Et ça peut durer des années, des années, des années. Et ça va avoir des résultats, ça va avoir des conséquences dans sa relation avec les uns, avec les autres. Hein? Et comme le but de la restauration, eh bien, c'est d'avoir des relations apaisées avec les uns, avec les autres. On ne va pas faire tout l'historique des étapes, mais on a vu que le bonheur sur cette terre va dépendre de la qualité de nos relations les uns avec les autres. Donc tout se tient. Si je veux avoir une vie heureuse, comme le Seigneur nous le promet, ça veut dire qu'on va passer par des relations apaisées, des relations d'amour, des relations de paix. Mais je ne pourrais pas arriver à ce stade-là si auparavant je n'ai pas nettoyé en moi tout ce qui m'empêche d'être libre, tout ce qui m'empêche d'avoir un comportement qui soit digne de ce que le Seigneur attend. Donc tout est lié. Et donc, on a fait l'inventaire, on a travaillé sur notre histoire. Et là, maintenant, on va passer dans une phase plus active, une phase où on va pas, tout l'inventaire qu'on a fait, on ne va pas le remettre à nouveau sous le tapis. Mais l'inventaire qu'on a fait, on va l'avouer à Dieu, on va se l'avouer à nous-mêmes parce qu'on a travaillé dessus et on est conscient de tout ce qui s'est passé. Et puis, on va voir aussi qu'il est important de l'avouer à un autre être humain. Voilà. Alors, on va voir, je vais dire chrétien. Parce que, en fait, si tu veux, quelqu'un qui n'est pas spirituel, hein, entre guillemets, si tu veux, aura du mal à comprendre la démarche. Tu vois? Donc, si tu veux, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui, je l'expliquais tout à l'heure, hein, qui a la crainte de Dieu, qui vraiment a une relation avec Dieu, et vous allez pouvoir prier ensemble. Parce que le but du jeu, c'est aussi de prier ensemble. Mais on va voir tout ça. La cinquième étape se révèle indispensable et assurément la plus difficile, puisqu'elle expose au grand jour nos émotions toxiques. Elle expose notre honte, notre culpabilité et la peur d'être jugé. Il faut avoir conscience que nous vivons avec un certain masque. Nous vivons, je vais le voir, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Il y a deux choses en nous. Il y a la personne que l'on est, et il y a aussi le personnage que l'on est. Et tant qu'on n'est pas restauré, il y a une distance entre la personne que je suis et le personnage que je veux bien montrer aux autres. Et là, et le mal-être, c'est que plus il y a de distance entre la personne que je suis et le personnage que je veux bien montrer aux autres, plus la distance est grande, plus le mal-être est grand. À l'inverse, quand on est guéri, il n'y a plus de personnage. Il y a ce que je suis. Paul dira, je sais qui je suis en Christ. Amen. On va lire le psaume 32, parce que le psaume 32 nous révèle exactement ce qu'on va voir ce soir. Hein, c'est le psaume de David, hein, qui avait fait des choses pas agréables à Dieu et qui avait gardé ça secret. Et donc, le psaume 32 commence ceci. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude, point de tricherie, c'est de l'authenticité, c'est de l'intégrité. Tant que je me suis tu, tant que j'ai gardé ça pour moi, tant que j'ai gardé ça secret, mes os se consumaient. C'est fort comme image, parce que ça veut dire que tant qu'on garde les secrets pour nous, c'est de l'intérieur que ça se consume. Et vous imaginez des os qui se consument ? Même le squelette est foutu. C'est pour montrer l'importance et la puissance que l'ennemi possède sur nous tant qu'on garde tout ça secret. Regardez bien, je gémissais toute la journée. Il n'y avait point de repos. La paix, il ne connaissait pas la paix. Il était toute la journée perturbé. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'existait plus. Sa vigueur, c'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Mais je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, dit le Seigneur. J'aurai le regard sur toi. Mais ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Amen. Il y a une grâce à avouer ses transgressions. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. C'est un psaume merveilleux, hein, qui nous invite à être vrai, à être authentique, à être intègre. Il n'y a rien de caché en moi. Amen. Et pour avoir... Oui. Pas de problème, pasteur.
Là, on parle de confesser,
ouais,
nos dysfonctionnements,
ouais,
ce qui nous a blessés,
ouais,
par rapport à l'enfance.
Ouais.
Et là, quand on lit le psaume 32 que tu as lu,
ouais,
c'est plus confesser les péchés.
Alors, tout à l'heure, tu n'étais pas là, mais j'ai fait deux colonnes. En fait, tu vois, si je reviens en arrière, attends, bouge pas, voilà, écoute bien. On a avoué à Dieu. Nous nous sommes avoués à nous-mêmes et nous avons avoué à un autre être humain la nature exacte des torts que j'ai causés et ceux que j'ai subis et les conséquences que ça a eues sur mon comportement. En fait, il y a deux colonnes, tu vois, et on le verra sur l'étape 6, l'étape 7, l'étape 8. On a un travail à faire, tu vois, parce que aussi on a fait aussi du mal. Tu comprends? Et si on veut nettoyer tout l'intérieur, et c'est le sens du psaume 32, tu as raison, tu vois, c'est que on a subi, mais on a aussi fait, tu vois, et on ne peut pas garder qu'une colonne. Il faut qu'on regarde honnêtement les deux colonnes. Tu vois. Parce que ce qu'on a fait, si on le nettoie pas, qu'est-ce que ça va donner comme avantage? Ça va donner à l'avantage, à l'ennemi, la culpabilité. De se sentir coupable de ce que tu as fait et que tu n'as pas corrigé. De ce que tu as fait et que tu as mis sous le tapis. Tu vois. L'ennemi te tient, quelque part. Et si ça se savait? Et si ce que tu as fait, là, ça se savait? Tu vois. Donc, à partir de là, il y a des secrets en toi, il y a des choses en toi. Tu n'es pas libre. Tu ne peux pas être 100% dans la liberté, dans la joie. Parce que tu caches des choses. Et ces choses cachées, là, vont être un handicap dans ta vie. Non, autre question.
Je me permets, parce que c'est important ce qu'on dit. Je comprends, mais après, il ne faut pas non plus que nous-mêmes, en tant qu'on est là pour être soignés, on est aussi une culpabilité exagérée.
D'accord.
Dans quel sens? Parce que moi, personnellement,
ouais,
quand je me suis converti et quand j'ai donné mon cœur au Seigneur,
ouais,
ben, je sais que mes péchés ont été pardonnés.
Ouais. Ouais.
Donc, tout ce que j'ai fait de mal par rapport au dysfonctionnement,
ouais,
ben, je sais que le Christ, il a aussi pardonné ça.
Tout à fait.
Maintenant,
tout à fait.
Je comprends aussi que peut-être il faut le confesser.
Ouais.
Mais je le dis aux frères et sœurs, cela ne remet pas en cause notre salut.
Bien sûr, ah oui, ça n'a rien à voir.
Si là,
bien sûr.
Si là on parle de péché à avouer,
ouais,
ça veut dire que devant Dieu, ben, finalement, j'ai plus accès à
ouais,
accès.
Ouais.
Or que, ben, comme tu as dit, la grâce,
ouais,
ben, la grâce nous permet d'avoir accès.
Ouais.
Et ce qu'on, en guillemets, les fautes qu'on va avouer, c'est les fautes pour se décharger,
ouais,
par rapport
exact,
à soi-même.
Exact.
Donc, moi, je fais une nuance, c'est très sûr. Nos péchés ont été pardonnés,
ouais,
quand on a cru au Seigneur. Peut-être qu'on n'a pas tout dit au Seigneur, mais voilà.
L'idée, non mais tu as raison, on ne remet pas le salut en question. On met seulement, si tu veux, de profiter de cette vie abondante du Seigneur qui nous promet. Et qu'est-ce qui peut faire obstacle, tu vois? Et qu'est-ce qui peut faire obstacle? Mais quelquefois, c'est que, oui, le Seigneur m'a pardonné, mais moi, j'ai du mal à me pardonner. Moi, j'ai encore ça. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un frère, si tu veux, il est sauvé. Et ça fait 30 ans qu'il est au Seigneur. Mais il y a une culpabilité toxique sur lui pour des choses qu'il a fait, alors que je lui dis, mais tes péchés sont pardonnés, c'est fini. Tu vois? Donc, quelquefois, si tu veux, il s'est senti beaucoup mieux une fois qu'il a pu avouer à moi, à un autre être humain, tu vois, ces choses-là. Et moi, je ne l'ai pas jugé. Moi, j'ai juste accueilli ce qu'il m'a dit. Et le fait que je ne change pas mon opinion sur lui, malgré ce qu'il avoue, c'est la grâce. Tu vois, c'est ce que Dieu nous donne. Dieu nous donne la grâce.
Et honnêtement, ben, il faudra trouver la bonne personne.
Oui. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que la cinquième n'est pas facile. On va y venir, mais par expérience et pour le sens des 12 étapes de ce que ça apporte, tu vois, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais les bénéfices que ça apporte sont tellement importants et on ne le sait pas. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas, tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Mais je peux te dire que tous les gens qui ont fait la cinquième étape peuvent dire qu'il y a eu un avant et un après.
Je peux le confesser au nom de Jésus.
Et donc, je dis, et c'est pour ça que je prends des précautions, tu vois, pour ce soir. Je dis, la cinquième n'est pas facile, mais c'est pour tout le monde pareil. Mais par contre, si on va jusqu'au bout, si on arrive à trouver la personne, eh ben, les bénéfices qu'on va en retirer seront tellement importantes que ça vaut le coup de chercher la bonne personne. Ça va? T'es d'accord, Alain? Prendre conscience et discerner ce qui ne va pas en nous est une chose. Mais s'ouvrir à quelqu'un et exposer au grand jour la vérité et la réalité de notre être est autre chose. Mais c'est le prix à payer pour vivre la vraie liberté à laquelle tu es appelé. Tu vois? Il y a le salut, et puis il y a cette idée de je vis pleinement la vraie liberté. Beaucoup de chrétiens sont sauvés, il n'y a pas de problème, mais ils ne vivent pas pleinement ce que Dieu a pour eux. Tu vois? Soit ils sont tristes, soit ils sont toujours dans la honte, soit ils sont toujours dans la culpabilité. Et ça, si tu veux, c'est pas à ça qu'on a été appelé. Tu vois? Évidemment, on peut continuer notre vie comme ça et être sauvé. Mais je trouve que c'est dommage de ne pas profiter de tout ce que le Christ a pour nous sur cette terre. Ça commence maintenant. La puissance du Saint-Esprit, la puissance du ressuscité qui agit en nous et qui nous transforme. C'est ça qui est une des choses de la transformation. On est transformé parce que petit à petit, toutes ces choses-là qui, entre parenthèses, bon, le mot n'est pas trop joli, mais qui nous pourrissent la vie, hein, puissent être réglées une bonne fois pour toutes. Paul Tournier, un médecin suisse, disait que rien ne nous rend plus seuls que nos secrets. Rien ne nous rend plus malades que les secrets que nous nous efforçons de maintenir enfouis au plus profond de nous. Si nous pouvons partager notre histoire avec quelqu'un qui répond avec empathie et compréhension, la honte ne peut pas survivre. Tu vois ? Il y a une réalité que je vais essayer de m'efforcer de vous faire comprendre ce soir, c'est que le fait de parler à un autre être humain de ce qui nous fait honte est une source de délivrance. C'est d'ailleurs le but des psys. Hein. C'est que tu vas au psy pour parler et pour raconter ce qui s'est passé. Hein. D'accord ? Sauf qu'il leur manque la dimension spirituelle. Ils n'ont pas cette dimension de connaissance du péché. C'est un phénomène. En fait, c'est ça que je vais vous faire découvrir ce soir. C'est le phénomène de la confession. Parce que c'est mal connu. Parce que la confession a été ramenée à un rituel religieux. Tu vois, on a l'image de confesser avec le curé dans la petite boîte. Et puis, 1, 2, 3, t'es pardonné. Mais en fait, c'est du truandage. En fait, la confession, c'est beaucoup plus puissant que ça. Et c'est ça qui... Mais on le verra, hein, puisque Jacques, il le dit bien, Jacques. Il dit, confessez vos péchés. À qui ? Les uns les autres. Il ne s'est pas trompé quand il dit ça. Hein ? C'est vrai que si on n'est pas enseigné, on peut dire « confessez vos péchés » et s'arrêter là. Non, il ne s'est pas trompé, Jacques. Il « confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez guéris. » Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Réalisons que nous sommes bien souvent esclaves de l'image que nous voulons montrer aux autres afin d'être acceptés, appréciés et aimés d'eux. L'étape 5 consiste aussi à nous dépouiller de nos masques et à nous révéler tels que nous sommes réellement. Nous aspirons à devenir authentiques, intègres. Nous ne voulons plus nous battre entre la personne que je suis et le personnage que je projette. Dans 1 Corinthiens 15, 10, Paul dira ceci, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Je n'ai plus honte de ce que je suis, j'ai fait la paix avec mon humanité, je suis une créature merveilleuse, je suis un enfant de Dieu, et c'est lui qui m'a rendu digne. » Amen. En réalité, le travail qu'on fait, c'est un travail d'authenticité. C'est-à-dire que beaucoup de gens, si tu veux, par rapport à ce qu'ils ont subi, ils ont défini qui ils sont par rapport à leur histoire. Tu comprends ? Notamment la honte. La honte, on l'a vu la semaine dernière, la honte, si tu veux, participe à notre identité. Et donc, beaucoup de gens, quand je pose la question et je dis, est-ce que tu peux dire, je suis une merveilleuse créature ? J'ai vu beaucoup de gens être incapables de le verbaliser, incapables de le dire. Et pourquoi ? Parce qu'il y a la réalité, c'est une merveilleuse créature, mais il y a ce qu'elle a subi et qui est encore très fort en elle. Et que malgré que Dieu lui dise qu'elle est une merveilleuse créature, ce qu'elle ressent à l'intérieur, ce n'est pas ça. Tu vois ? C'est qu'elle a encore des pensées, elle est encore sous le joug de l'ennemi dans ce sens-là, qui lui fait penser qu'elle est une, elle n'est pas une merveilleuse créature. Tu vois ? Et donc, on appelle ça une dichotomie, c'est-à-dire c'est deux choses contradictoires. Et donc, elle se bat, elle n'est pas heureuse, elle se bat avec l'image qu'elle a d'elle-même par rapport à ce qu'on lui a fait, et notamment on va retrouver les abus sexuels, tu vois, et de qui lui a donné une image d'elle-même qui est dévalorisée. Tu vois, et quand elle entend « tu es une merveilleuse créature », eh bien, si tu veux, elle a du mal à l'accepter et même à verbaliser qu'elle est une merveilleuse créature, elle n'y arrive pas. Tu vois. Donc, faire la paix avec soi-même, c'est fondamental pour arriver à ce que Paul dit « je sais qui je suis, je n'ai pas honte de ce que je suis ». Voilà ce que Dieu a fait en moi. Il a enlevé ma honte, il a enlevé la culpabilité. C'est un processus, mais c'est important de ne pas rester avec une image dégradée de soi à cause du péché, alors que Jésus est venu, il a enlevé le péché et il nous reforme au fur et à mesure à son image. Est-ce que ça va? C'est compliqué? Cinquième étape est compliquée. Le piège à éviter absolument. J'ai peur de vous dire qui je suis, parce que si je vous dis qui je suis, vous n'aimerez peut-être pas qui je suis. Et pourtant, c'est tout ce que j'ai. Oui. Être vrai, être authentique, ne pas jouer un personnage, être ce que l'on est, avec nos forces, avec nos faiblesses, mais être fier de ce qu'on est, parce qu'on est un enfant de Dieu. Amen. Je sais qui je suis. Je suis ce que je suis. Mais j'ai repris le verset. Regarde, attends. Je suis ce que je suis. Ouais. Et c'est important d'arriver à être débarrassé de toutes les conséquences du péché sur moi pour pouvoir vivre pleinement la puissance de Dieu dans ma vie. Comprendre ce qu'est la confession. Au début de l'église chrétienne, la confession avait une place importante. Jésus appelait les gens qui l'écoutaient à se repentir et à porter du fruit dans leur vie. Plus tard, ses disciples ont continué à propager le même message et ceux qui croyaient venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Dans Actes 19, 18. C'était quelque chose habituel. Donc il y avait cette confession qui faisait partie vraiment de la vie chrétienne. Le verbe confesser, utilisé dans le Nouveau Testament, provient du grec homologeo, formé de homo, homos, même, et de lego, parler. Ça signifie tenir le même langage, s'entendre, s'accorder, admettre. C'est cette idée toujours d'authenticité, d'intégrité. On parle le même langage. Ce terme grec a donné naissance au mot français « homologué », qui est employé pour ratifier et valider une entente entre deux parties. Essentiellement, la confession est un acte éclairé de la volonté qui pousse la personne à avouer ses torts à quelqu'un d'autre ou ce qu'elle a subi. C'est un acte relationnel. C'est quelque chose qu'on a du mal à expliquer avec des mots, mais c'est un acte entre deux personnes. C'est une relation qui s'établit entre deux personnes. Et on va le voir un petit peu plus tard, mais chacun de nous, je pense qu'on a tous fait plus ou moins de la confession avec quelqu'un. Et si vous observez ce que ça a provoqué en vous, ça vous a enlevé un poids. Ça enlève un poids de partager avec quelqu'un une souffrance, un poids, un fardeau, hein, porter les fardeaux les uns les autres. C'est-à-dire qu'à un moment, on discute de quelque chose et le fait de le dire, c'est comme si que ça sort des ténèbres, ça sort de quelque chose qui était malsain, qui était resté là et qu'on avait honte de dire. C'est amené à la lumière et on en parle et finalement, on s'aperçoit que j'étais tenu par quelque chose. Maintenant que je l'ai dit, je vois que ce n'est pas si grave que ça. Et puis, la personne qui est là ne juge pas. La personne qui est là, elle comprend la personne. Et donc, il y a toute une somme d'émotions qui vient ici. Et c'est ça la beauté de la relation humaine, parce qu'on ne peut pas toujours mettre des mots, mais il se passe quelque chose. Il y a une souffrance qui... Ça porte un nom aussi. On appelle ça le partage de la souffrance. Hein? Souvent, vous allez dire à quelqu'un, « Ah ben, tu me comprends, toi, parce que tu as vécu la même chose. » Oui. Donc, il y a un partage de la souffrance qui se fait. Et donc, dans les amitiés, on a tendance, quelquefois, à partager des choses. Et ça nous fait du bien. Bon, évidemment, quelquefois, on est déçu parce qu'il peut y avoir aussi de la trahison. Malheureusement, on n'est pas parfait. Hein. C'est amener à la lumière ce qui pourrait très bien rester secret et caché. Mais une véritable confession, c'est jamais flou. C'est toujours quelque chose de clair. Voilà ce que j'ai fait ou voilà ce que j'ai subi. Avouer n'est en fait que l'expression d'une personne qui, tourmentée par ses erreurs, ses péchés ou encore parce qu'elle a subi, décide consciemment et volontairement de mettre tout en lumière pour s'en détacher. Quand on garde les choses secrètes, ils restent attachés à nous. Ils font partie de nous. C'est pour ça que la semaine dernière, quand on a vu la honte, on voit bien que quand on a honte, ça s'identifie à notre personne. Ça s'identifie à ce qu'on est. Et l'ennemi nous tient là-dedans. Hein? Alors qu'en réalité, non, on n'a plus à avoir honte. Mais tout ça, il faut en parler, il faut en prendre conscience. Si la personne est toute seule et qu'elle n'en parle pas, 10 ans peuvent passer, 20 ans peuvent passer, 30 ans peuvent passer, et elle restera dans ce qu'elle considère comme trop honteux pour en parler.
C'est l'ennemi qui nous tient, et le fait, comme tu disais tout à l'heure, de confesser, l'ennemi perd de sa puissance, à partir du moment où un péché est confessé.
Exactement. Exactement.
L'ennemi ne peut plus nous tenir.
Oui. Exactement. Quand vous confessez quelque chose à la lumière de ce qui est honteux, vous récupérez quelque chose. L'ennemi ne peut plus vous titiller avec ça, puisque c'est amené à la lumière. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Mais par contre, tant que vous l'avez en vous, l'ennemi peut s'en servir contre vous. Hein? Et la honte va faire que vous allez avoir votre personne et vous allez être le personnage qui est acceptable aux yeux des autres. Mais en réalité, on n'est pas vrai. En réalité, on n'est pas authentique. Vous comprenez ça? C'est une réalité. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Maintenant, on peut vivre. Hein, on peut vivre avec de la honte, on peut vivre avec de la culpabilité. Mais on n'est pas appelé à ça. La vraie liberté, c'est de ne plus être dépendant de ces choses-là. Oui, c'est pas forcément quelque chose de grave. Mais ça marche dans tous les sens. Que ça soit quelque chose de... Bon là, qu'on pourrait dire, bon c'est un petit détail, ou quelque chose de grave. La parole libère. C'est connu de tout le monde, la parole libère. C'est comme ça. Hein? Et à l'inverse, si tu te tais, ça te mange de l'intérieur, ça te ronge de l'intérieur. Souvent on utilise cette phrase-là. Hein? Il faut que je t'avoue quelque chose. Parce que j'ai besoin de me libérer de quelque chose. J'ai besoin de me détacher de quelque chose. Il faut que je te parle. Il faut que je t'avoue quelque chose. Hein? Vous entendez cette expression-là? J'ai besoin de me libérer de quelque chose. En partageant ainsi nos torts, ceux-ci, par contre, deviennent plus évidents à nos propres yeux. Nos mauvaises habitudes cesseront peu à peu. Que ce soit des paroles, des gestes, des réactions démesurées ou des comportements égoïstes, dès que nous en prenons conscience et que nous les confessons, il est plus facile de s'en débarrasser. D'accord ? Petit à petit, je vais essayer de répondre à ta question au fur et à mesure qu'on avance dans l'enseignement. Parce que ta question, c'est la question de tout le monde, ici, tu vois ? Quand on partage quelque chose avec quelqu'un, tu vois, notamment un péché, le fait que l'autre le sache, tu vois, mais évidemment, il faut trouver la bonne personne, on est d'accord. On va le voir tout à l'heure avec le référent. En fait, ce péché-là, on le combat à deux. On le combat avec la personne. On va prier avec cette personne-là. Et on va être référent, tu vois. Et la personne, par exemple, prenons la pornographie, la personne, eh ben, elle ne se sent pas seule. Parce que quand elle est cachée, quand c'est caché, elle est faible. Mais quand c'est mis à la lumière, elle devient plus forte. Et là, elle peut très bien... Parce que souvent, si tu veux, bon, on ne va pas rentrer trop dans les détails d'addiction, mais pour essayer de faire simple. Souvent, si tu veux, il va se passer un événement douloureux. Pas forcément un gros événement, une contrariété, quelque chose qui déçoit, une tristesse, si tu veux résumer. Et donc, la personne qui est addicte à la pornographie, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un chemin, un processus qui se met en place. Tristesse et égale compensation. Et donc, pour le corps qui connaît cette adrénaline-là, il va compenser par de la pornographie. Mais on peut très bien, avant que ça arrive, mais par contre, c'est dès que ça arrive, en parler avec le référent, avec l'autre personne, prier pour que ça n'aille pas plus loin. Prier pour que le processus ne se mette pas en route. Et tu vois, quand c'est quelque chose de difficile, parce que la pornographie fait partie des péchés, des addictions les plus difficiles à éliminer, eh ben, le processus se met en place. Tu vois. Et il va peut-être pas arrêter tout de suite, mais petit à petit, il va en parler, petit à petit, il va se libérer de tout ça, petit à petit, il aura moins honte, tu vois. Quand il va louer dans l'église le Seigneur, alléluia, ben, tout ça, ça va reprendre forme. Tu vois, mais c'est difficile pour certaines personnes de dire alléluia dans l'église alors que tu es trempé dans la pornographie. Et pourtant, c'est pas une question de salut là, tu vois. C'est une question de vie spirituelle. Et le fait d'en parler à quelqu'un, eh ben, ça te rend. C'est comme si tu te rendais un petit peu redevable avec cette personne là. La personne te juge pas. Elle te dit alors, ça va cette semaine? Comment ça va cette semaine? On prie ensemble. Tu vois, c'est un soutien mutuel pour pas que tu sois seul. Parce qu'il n'y a rien de pire que t'es seul quand t'es seul. Alors évidemment, on prie à Dieu, on prie soi-même à Dieu. Mais c'est beaucoup plus fort de prier à deux. Et on verra tout à l'heure le verset d'Ecclésiaste où la Bible nous dit qu'il est préférable d'être à deux que tout seul. Peut-être que ces habitudes dureront encore un certain temps. Mais petit à petit, elles vont s'estomper. Et elles vont faire place à de nouvelles et bonnes habitudes qui nous permettront de ressembler de plus en plus à Jésus. La confession nous amène à affiner nos prises de conscience, à devenir de plus en plus acteurs de notre transformation. Notre conscience s'affine et nous permet d'être plus alertes quant à d'éventuelles fautes futures. Là, il faut revenir à ce qu'on avait vu au tout début. Est-ce que vous vous rappelez, je vous ai parlé du déni? Oui. Le fait de confesser à quelqu'un casse la barrière du déni. Parce que le déni, c'est quelque chose que nous, on ne voit pas. On va regarder tout à l'heure la fenêtre de Johari, mais il faut revenir à comment fonctionne un être humain. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Hein? Mais quand on partage ça avec un autre être humain, lui, il voit des choses que l'autre ne voit pas. Et donc, forcément, ça va permettre d'améliorer ça. Ça va permettre de lui dire, mais tu vois, je pense que là, ben, si tu continues à prendre ce chemin-là, ou à fréquenter cette personne-là, ou si tu fais, ben, je pense que ça ne va pas s'améliorer. Mais il n'y a pas, tu vois, on enlève cette notion de jugement. On est juste là pour être en support de l'autre. Supporter vous les uns les autres. Supporter les fardeaux. On est là pour être à deux. Sortir de l'ombre et entrer dans la lumière nous renouvelle et redynamise notre volonté et notre enthousiasme. Plus on va se purifier, plus on va se sanctifier, plus on va retrouver de l'énergie, de la volonté pour combattre le péché. Notre relation avec Dieu se consolide. Nos fautes et nos péchés ne sont pas sans affecter notre relation avec Dieu. La Bible mentionne expressément que ceci nous éloigne de lui et érige un mur de séparation. La confession nous aide à nous débarrasser de la culpabilité toxique. La culpabilité est un des principaux tourments intérieurs. Face à elle, nous optons pour la passivité. Nous sombrons dans l'impuissance. C'est probablement ce qui a fait de la culpabilité un élément de souffrance morale extrême. Il faut penser que dans l'Église, il y a des frères et sœurs qui subissent ça. Ils sont dans une culpabilité et la culpabilité agit comme un bourreau. Mais ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Il y a la personne qui sont et il y a le personnage qu'ils veulent bien montrer. Grâce à la confession, celle-ci perdra de son emprise et fera davantage place à la paix de l'esprit. Amen. Il y a une guérison, une libération profonde dans le seul fait d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ça, c'est une réalité. Maintenant, ne me demandez pas pourquoi, comment. Ça s'observe. Hein, ça s'observe. Il y a une guérison, une libération profonde dans le seul fait d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de soi. D'ailleurs, toutes les formes de thérapie ont en commun l'utilisation du langage et de la parole. Il faut pouvoir raconter et se raconter. À court terme, pour les personnes les plus blessées, le silence crée un état d'enfermement qui nuit à leur rétablissement. Parler permet de sortir de ce confinement intérieur et de revivre. Quelquefois, on est dans nos prisons. Hein, quelquefois, on est dans des prisons spirituelles. Et pourquoi ? Parce qu'on garde le silence. Si on en parlait, on sortirait de notre prison. Dieu a voulu la confession, non pas pour lui, parce qu'il sait toute chose. Tu vois ? Quand tu vois la confession dans la Bible, tu pourrais dire, mais à quoi ça sert ? Puisque Dieu connaît toute chose. Non ? Il l'a fait pour nous. La confession, c'est pour nous. Nous en sommes les premiers bénéficiaires. Si nos fautes érigent un mur entre lui et nous, notre confession construit un pont. Amen. Si nos fautes érigent un mur entre lui et nous, notre confession construit un pont. Ok ? Le fait d'être à deux nous protège du péché. Je vous donne un exemple. Vous êtes tout à l'heure, on va employer des mots que vous comprendrez en référent. Hein, je vais vous expliquer que c'est important d'avoir un référent dans notre vie spirituelle. Pourquoi ? Parce que c'est important d'avoir un frère. Quand on est un homme, on a un frère. Et quand on est une sœur, on a une sœur en référent. D'accord ? Mais quand on est un homme, on a un frère en référent et on partage régulièrement. On fait ce qu'on appelle du cœur à cœur spirituel. Et je vous donne un exemple. Parce que je vais vous donner la puissance du déni. Le frère vient vous voir et puis ça fait quelque temps qu'il vous dit que son couple, c'est un peu compliqué, c'est un petit peu difficile en ce moment. Donc on prie pour le couple et tout ça. Et en même temps, comme ça, presque, ça n'a pas de sens, presque, c'est pas grave. Et il dit, il y a une fille qui est arrivée dans le bureau, elle est vachement sympa, elle est bien. Il n'y a pas de mal. Okay. Sauf que peut-être que vous allez voir des choses qu'il ne voit pas. Il est capable de vous dire, tiens, j'ai pris un café avec elle, qu'est-ce qu'elle est sympa et tout ça. Et lui, il ne voit pas de mal, il est dans le déni. Mais vous allez lui dire, tu sais là, il faudrait que tu fasses gaffe. Qu'est-ce que tu ressens pour elle ? Vous voyez, on va partager et on va peut-être mettre à jour un danger que lui ne voit pas. Un café. Alors, si on ne peut plus prendre un café avec quelqu'un au boulot, où est-ce qu'on va ? Non, non. Regarde dans quel état tu es. Ça ne va plus à la maison. Tu vois ? Et là, tu as quelqu'un que tu apprécies. Tu as quelqu'un qui va te valoriser. Tu vois ? Mais il y a du danger. Il y a un danger. Et le fait d'être à deux va sans doute faire prendre conscience à l'autre de ce qui se passe. Et au prochain cœur à cœur, peut-être on va pouvoir lui poser la question. Alors, et puis avec la fille que tu as vue là ? Non, mais tu as raison, je t'ai écouté, c'est bon, j'ai coupé les ponts, terminé. Vous voyez ? C'est plein de petites choses comme ça qui va faire qu'on va se préserver. Parce que quelquefois, on croit qu'il n'y a pas de danger. Alors qu'il y a un danger. Ça va là-dessus ? Vous êtes silencieux. On réfléchit. Alors, allons dans la partie la plus compliquée. Nous avons avoué à un autre être humain. S'il y a un défi à relever, c'est bien le fait d'avouer nos torts à un autre être humain. La forte tentation que vous pourrez avoir dans les semaines à venir serait de rester dans l'ombre et dans l'obscurité. Je vous le dis ce soir, clairement, le plus facile, c'est de dire, non, non, moi, je ne crois pas à ce que j'ai entendu ce soir. Moi, confesser à un autre être humain, jamais, jamais de ma vie. Possible. Mais je vous dis, si vous faites ça, c'est votre droit. Hein, mais vous avez de la honte en vous. Dieu nous a tout pardonné. Il nous a tout pardonné. On n'a plus de honte à avoir. Vous comprenez ? Il ne faut pas qu'on reste sous un joug de culpabilité, de honte. Hein. Et le fait de le confesser à un autre être humain, de prier pour ça, et que l'autre être humain accueille tout ça avec nous, c'est d'une libération. Vous ne pouvez pas imaginer. On est plein à l'avoir expérimenté. Je ne sais pas les mots qu'il faudrait que j'emploie pour vous convaincre que c'est tellement important. Tellement important.
Mais déjà, il faut être capable de faire l'étape d'avant, de s'avouer à nous-mêmes.
Ouais.
Ce qu'on a fait ou ce qu'on a subi.
Ouais.
Pour pouvoir le partager.
Bien sûr. Bien sûr. Mais le fait de le partager aussi, tu sais, ça aide aussi à se pardonner à soi-même. Ça aide aussi à accepter. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une phrase qui est fondamentale, faire la paix avec notre humanité. Hein? Tout ce qu'on voit dans chaque étape, je répète toujours ça, le péché nous a déformés. Mais Dieu nous reforme. Mais le péché nous a déformés. Ce n'est pas nous à la base qui avons décidé d'avoir ce genre de dysfonctionnement. Ce n'est pas nous à la base d'avoir choisi des parents toxiques. Ce n'est pas nous à la base d'avoir choisi qu'à l'école on était harcelé. D'accord ? Ça fait partie de la méchanceté qu'il y a sur la terre. Est-ce qu'il n'est pas temps d'inverser la honte ? Est-ce que la honte, elle ne devrait pas changer de camp ? Est-ce que c'est à nous encore d'avoir honte alors qu'on a subi tout ça ? C'est la question qu'il faut se poser. Vas-y. Oui, bien sûr. Tu peux avoir deux référents. Tu peux avoir quelqu'un en qui tu as confiance et que tu sens que tu peux dire les choses. Pourquoi pas ? En fait, on va voir qu'on va, prier, hein, on va demander au Saint-Esprit de nous montrer une personne. Vous savez, personne n'est parfait. OK ? Donc, si on attend la personne parfaite, on ne se confessera jamais. Vous êtes d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que parce que personne n'est parfait, je ne me confesse pas et donc je reste comme je suis? Ou est-ce que je fais confiance à Dieu, je prie et je demande au Saint-Esprit de montrer la personne qui n'est pas parfaite, mais on va voir les attributs tout à l'heure, mais qui peut entendre mon histoire, tu vois, et sans juger, et qu'à partir de là, je vais bénéficier des conséquences de la confession. Je vais avoir les bénéfices de la confession. Là, quand vous êtes en plein doute, c'est parce que vous ne connaissez pas la confession. Vous ne savez pas ce que ça apporte, la confession. La confession, c'est libérateur. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Bon, moi, je vais vous dire, je vais vous parler de moi. Moi, mon référent, c'est Alain. Vous voyez ? Et je suis son référent. Ça fait 15 ans. Et vous n'imaginez même pas les bénéfices que ça nous a apportés. N'imaginez même pas. Vas-y.
Du coup, là, c'est pas mal de le dire. Par exemple, pasteur, toi, le référent.
Ouais. Mais tu as raison. Mais Johnny, t'inquiète pas, j'ai un chapitre pour toi. Ne bouge pas. Parce qu'on va y venir. On va y venir. Non, mais je comprends ton souci, Johnny. Mais tu comprends bien que là, il y a une chose qui n'est pas remise en cause, c'est le salut. Le salut n'est pas remis en cause. Moi, si tu veux, de par ma formation de relation d'aide, si tu veux, moi, mon souci, le fardeau que Dieu a mis sur mon cœur, si tu veux, c'est que beaucoup de gens sont malheureux en étant chrétiens. Tu vois, c'est ça mon plus gros souci. Enfin, c'est pas... J'ai pas le, bon, OK, ça ne m'empêche pas de vivre, attention. Mais je veux dire que le fardeau que Dieu m'a mis, si tu veux, c'est libère mon peuple. Libère mon peuple. Je suis venu pour libérer les captifs. Ça veut dire qu'on a des captifs au milieu de nous que l'ennemi tient. Et donc, j'essaye de décrypter les choses. J'essaye de montrer comment un être humain fonctionne et comment que tu peux être chrétien et malgré tout être encore, si tu veux, sur certaines emprises. Tu vois? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et les outils que je vous apporte, c'est des outils, ce n'est pas moi qui les ai inventés. Hein, moi, j'ai été dans la formation de, alors pour certains, ils le connaissent, Denis Morissette. Hein, ça fait maintenant, Denis, ça fait 40 ans qu'il est psychothérapeute, chrétien, hein, pasteur. Et donc, il a une formation qui est validée. Et moi, j'ai été dans cette formation-là. Mais tout ce que je vous dis, je l'ai testé, je l'ai vérifié. Et donc, avoir un référent comme Alain, mais c'est extraordinaire pour moi. Parce qu'on peut partager tout. Tout. C'est-à-dire que si vous y avez une tentation, est-ce que vous savez que les tentations existent ? Non, je plaisante. Bien sûr que les tentations existent. Mais le fait d'en parler, ça fait perdre de la puissance à la tentation. Le fait d'en parler à Alain, de dire à Alain, j'ai un petit souci en ce moment, là, tac. Hop, le fait d'en avoir parlé, ça y est, l'ennemi n'a plus de prise. Il n'y a rien de caché. Je l'ai dit, je l'ai avoué. Vous comprenez ? C'est puissant. Et après, on va prier. Et puis Alain, au prochain resto, il me coûte cher, il faut que je paye le resto. Mais au prochain resto, Alain, il va me dire, ou au téléphone, il va me dire alors, et tout ça. Je dis, ah, c'est bon, la pensée est partie. Mais il ne faut pas avoir honte. Pas avoir honte. Est-ce qu'on va dire, parce que moi je suis pasteur, enfin moi je parle pas de moi, je suis pasteur, donc moi personne, rien ne peut me toucher. Moi je suis protégé, je suis, mais ça n'existe pas. Et à un moment, il faut dire, on n'est que des hommes. On est tous des hommes. Et l'ennemi sait comment nous toucher. Sinon, il n'y aurait pas de rétrograde. Sinon, tout le monde serait sauvé, tout le monde resterait dans l'église. C'est bien qu'il y a des failles. C'est bien qu'il y a des hommes qui sont tentés. Et puis qui tombe, qui chute.
C'est bien ?
Non, c'est pas bien. Mais je dis qu'il faut travailler là-dessus.
Ah, d'accord.
Tu comprends ?
Et vous avez le pasteur qui a un bon référent.
Amen. Exactement.
Parce que...
Mais Johnny en reçoit des confidences. Il fait les visites. Quand il fait les visites, ben, croyez pas qu'il ne reçoit pas des confessions. Mais il en reçoit des confessions, évidemment. Il a le secret. Comme moi, j'ai le secret. J'ai le secret de rien dire. Et lui aussi. Mais il en reçoit des confessions. Demandez à Dieu de vous aider. Allez, on y va dans le dur, là. Hein? Demandez à Dieu de vous aider à trouver la personne à qui vous pourriez partager ouvertement votre cœur, votre état et vos torts. Parce que cette étape est particulièrement difficile, vous devez recourir à son aide plus que jamais. Il faut prier. Moi, je vous assure, j'ai des témoignages des gens qui ont prié et Dieu leur a montré la personne à qui ils pouvaient se confier. Vous avez des personnes qui ont reçu un don. Vous savez ce quoi ce don ? C'est de fermer sa bouche.
De compassion, de
miséricorde. Ils ont ce don. Vous avez des gens, c'est plus fort qu'eux, ils ont une information, il faut qu'ils la diffusent. Ils ne savent pas tenir leur langue. C'est comme ça.
Hein ?
Exactement. On ne parle pas de ces gens-là. On parle des gens qui sont attachés à Dieu, qui ont la crainte de Dieu. Mais en même temps, qui savent ne pas divulguer les informations. On n'a pas envie que nos péchés soient étalés sur la place publique. Mais c'est quand même mieux, si tu veux, parce qu'on va prier, tu vois. Ouais. Ouais. Mais c'est mieux d'avoir à quelqu'un qui est... Enfin, pour moi, bon, spirituel, ça ne veut rien dire. Pour moi, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu.
Voilà.
Tu vois? Et avec qui on va pouvoir prier? On va pouvoir, une fois qu'on l'a avoué, tu vois, on ne laisse pas ça comme ça. On va prier pour demander à Dieu d'intervenir. Okay? La prière, c'est l'arme qu'on a, c'est l'arme essentielle. Donc, si tu es avec quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, il va te manquer une dimension. Tous ceux qui ont franchi cette étape vous diront que la guérison s'est produite dans leur vie. Confessez vos péchés les uns aux autres. Vous serez guéris. C'est pas une blague. C'est la Bible qui le dit. Nous voyons dans les Actes des Apôtres que les premiers chrétiens mettaient la confession en pratique. Ils portaient les fardeaux les uns des autres et avouaient leurs fautes les uns aux autres. Priaient les uns pour les autres afin d'être guéris. Les bienfaits de cette étape ne sont possibles que par une mise en pratique. Amen. C'est fondamental. Et puis, Vous savez, quand vous avez... voilà, au début, ça fait peut-être bizarre, mais au bout d'un moment que vous avez ça, mais alors, qu'est-ce que vous vous sentez léger? Il y a plus de... Je ne sais pas comment on pourrait dire. J'emploie des fois cette métaphore. Je dis, il n'y a plus de squelette dans le placard. C'est-à-dire, vous pouvez marcher. Il n'y a pas quelque chose qui va arriver dans le dos, qui va me poignarder dans le dos. Hein? Oui, y a, tout est clair, tout est clean. C'est clean. Facile, de plus en plus facile. Ouais, exactement. La honte n'a plus de prise. En fait, si tu ne confesses pas ton péché, c'est que tu as honte. Enfin, tu le confesses à Dieu, parce qu'on dit tout à Dieu. Okay? Mais quand tu veux... Alors, confesser ton péché, il faut s'entendre là-dessus, parce que Johnny va sortir de ses gonds, je le sens. Non, en fait, confesser son péché, ce n'est pas ça. C'est confesser ses tentations, c'est confesser tout ce qui pourrait encore nous titiller. Dieu nous a tout pardonné. Donc, on pourrait dire, maintenant, on ne risque plus rien. Mais ce n'est pas vrai. On a tout, tant qu'on est sur cette terre, on doit faire attention que celui qui se croit fort prenne garde de ne pas tomber. On doit être vigilant, veiller et prier parce que vous avez un ennemi qui rugit, qui est là. Donc tout ça, là, il ne faut pas le négliger. La puissance du péché, l'ennemi qui est là à ta porte, l'ennemi qui attend que tu fasses une erreur, il est là. Et donc il faut nous armer. Et la confession fait partie des armes. Même si ce n'est pas souvent prêché, j'y peux rien, mais c'est une réalité. La confession fait partie des armes du chrétien. Parce que quand tu confesses, l'ennemi, il a plus de force. Vous le croyez?
Oui.
Vous le croyez?
Oui.
Johnny, tu le crois? Amen. Quel genre de personne devez-vous rechercher pour partager le fruit de votre inventaire? La réponse est toute simple. Une personne digne de confiance. Une personne digne de confiance. Vous n'allez pas me dire que dans toutes vos connaissances, il n'y a pas une personne de confiance? Pensez pas à une personne de confiance, là, à l'instant que je vous parle? Oui, il y a un risque. En fait, ce n'est pas ça. Alors, là, on part sur un autre sujet. On part sur un autre sujet. C'est que si tu veux... j'ai dit tout à l'heure, la confession, c'est un acte relationnel. Il se crée une intimité quand tu es dans la confession.
Ça peut être un mari ou une femme.
Oui, mari-femme, c'est différent. Mais après, il y a des choses qui seront compliquées à confesser à sa propre femme, quelquefois. Hein? C'est un peu compliqué, des fois. Alors, vas-y. Ouais, 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 exactement. Il y a un lien qui se crée. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que je pense, et c'est pour moi, c'est biblique, c'est l'esprit de la Bible, c'est que tu vas pas créer un lien avec une personne du sexe opposé, parce que ça crée un danger. C'est ça le problème. Donc c'est une femme avec une femme, un homme avec un homme. Alors autre chose. Donc, on part sur cette base-là, une personne digne de confiance. Et dans la confiance, on va aller un peu plus loin, d'accord? Ecclésiaste nous dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul! Malheur à celui qui est seul! Eh oui, malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. C'est sur ce verset-là que j'appuie le fait que c'est important d'avoir un compagnon d'œuvre, quelqu'un qui marche avec toi spirituellement. On peut l'appeler référent. Johnny parlait tout à l'heure, c'est moi qui ai le plus mal barré. Mais je dis oui. Je dis oui. Je dis les pasteurs, ils sont dans un piège. Moi, quand je parle avec un pasteur, je lui dis, est-ce que tu as un référent? Mais beaucoup me disent non. Mais c'est grave. Ben oui, pourquoi pas? Ben oui, bien sûr. Mais alors, tu vois, tu as des pasteurs. Non, mais soyons sérieux deux secondes. Hein? Soyons sérieux deux secondes. Tu as des pasteurs qui ont chuté. S'ils avaient eu un référent spirituel, je suis sûr qu'ils n'auraient pas. Ben, c'est compliqué. Non, mais il y a un piège, d'accord? C'est que le pasteur, s'il a des tentations, à qui il dit? À un autre pasteur. Mais comment l'autre pasteur va le prendre? Parce que là, là, on parle de gens de confiance, des gens avec qui on s'entend, il y a des affinités. Ce n'est pas un titre qu'on cherche là, Odile. On ne cherche pas un titre là. On cherche une personne. Ce n'est pas obligé un pasteur. Ça peut être quelqu'un de confiance. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une référence, de dire... parce que là, il faut se dépouiller des étiquettes, là. Là, entre nous, là, pasteur ou pas pasteur, la question n'est pas là. La question est que... Tu crois que l'ennemi se pose la question par rapport à ton étiquette? Tu comprends? Je veux dire que tu es en danger que tu sois pasteur ou pas pasteur. Au contraire, je dirais même qu'un pasteur qui n'a pas de référent, il est encore plus en danger. Encore plus en danger. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de tout cacher. Alors, un pasteur qui est attiré par quelqu'un dans l'église. Alors, il va mettre un interdit. Il va dire non, ça c'est impossible et tout ça. Mais il va combattre tout seul. Il va combattre seul. Et l'ennemi sera plus fort. Alors, des fois, tant mieux, il va réussir. Mais il y en a combien qui sont tombés? Il y en a combien qui sont tombés dans l'adultère? Et là, c'est pas lui et sa famille. C'est lui, sa famille et l'église. Tu vois la responsabilité qu'il a? Donc, si tu veux un référent, pour moi, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Parce que si on pense que c'est une option, on n'a pas compris la puissance du péché. On fait quoi? Je suis pasteur, je suis sur un piédestal, j'ai été immunisé. Tu sais, au moment où on m'a dit « t'es pasteur », j'ai reçu une immunité. Incroyable. Et il faut arrêter. Tu vois? Et le problème, c'est que les chrétiens... Quelquefois, ils croient ça. Et quand un pasteur tombe, ils font « Oh! Comment c'est possible? Il était pasteur? Ça ne pouvait pas arriver, il est pasteur. » Comme si que l'étiquette te protège. Mais il faut arrêter le délire. Donc un référent, c'est important. C'est important. C'est important pour la session, là, pour confesser. Mais ça va au-delà. C'est important pour la vie spirituelle. Tu vois, trouver quelqu'un de confiance. Hein, quelqu'un que ça va être un compagnon d'œuvre comme on trouve dans les évangiles, mon compagnon d'œuvre. Tu vois, j'ai un compagnon d'œuvre. Dès qu'il y a une tentation, dès qu'il y a quelque chose, on s'appelle, on se voit, on prend un café et tu dis waouh, j'ai une attaque. Eh oui, une attaque. C'est un discours de vérité. Peut-être que vous ne l'avez pas entendu souvent, mais c'est un discours de vérité. Avoir un référent dans notre vie n'est pas une option. La vie chrétienne ne se vit pas en solitaire, en mode individuel. La fenêtre de Johari, qu'on a vue au moins 3 fois, et on va la voir ce soir, nous montre le cœur de l'être humain qui ne voit pas les choses que l'autre voit. Avoir un référent, c'est une marque d'humilité. C'est de dire tout seul, je ne suis pas capable. C'est le sens de l'Église. Depuis le début, dans les étapes 1, on l'a vu dans l'introduction, on est une église, on ne vit pas en solitaire, on ne vit pas en individuel, on vit ensemble, les uns les autres. Combien de fois les uns les autres? Combien de fois les uns les autres? Dans le Nouveau Testament. Il ne faut pas que ça soit de la théorie, il ne faut pas que ça soit quelque chose de spirituel là et qu'on ne vit pas. On est ensemble. Les uns, les autres. Il n'y a pas de honte. On n'a plus de honte. C'est quoi d'avoir encore de la honte, d'avouer ça? Mais c'est fini, tu as été délivré. C'est fini. Pourquoi tu es encore esclave de la honte? Alors que Dieu t'a délivré de la honte. Prends position et arrête avec ça. Regardez, on revient juste un instant. Juste un instant de la fenêtre de Johari. Regardez ça. Regardez le carreau 2. Comprenez le carreau 2. C'est le déni. C'est les choses que je ne vois pas, mais que l'autre qui est avec moi, lui, va voir. Et parce que c'est mon compagnon, parce que c'est mon référent, il aura le courage de me dire « Hé, Bertrand, fais gaffe, ça c'est dangereux, fais gaffe. » Et on aura du temps pour abattre la barrière du déni. Parce que la première réflexion, c'est « Mais non, il n'y a pas de problème. » Tu vois un truc, là, un problème, il n'y a pas de problème. Mais on est compagnons d'œuvre, on se connaît, on sait bien. Et je te dis « Fais gaffe, je te dis « Hé, attention, là, il y a un piège. » Toi, tu ne le vois pas, là, mais je te dis qu'il y a un piège. Là où on apprend à le connaître, ça peut être, si tu n'en as jamais eu, ça peut être... On ne peut pas mettre une case Tu vois, on peut pas. C'est quelqu'un que Dieu va placer sur ton chemin, que tu vas sentir quelqu'un de confiance. Tu vois, c'est. On peut pas se mettre à la place d'une autre personne. Mais la morale de cette histoire, c'est que faire faire sa vie spirituelle tout seul, c'est se mettre en danger. Non.
Comme un
Exactement. C'est une marche. C'est-à-dire que pour les besoins de l'étape 5, c'est quelqu'un qu'on ouais. Après, tu peux trouver d'autres personnes, tu vois. Mais ce qui est important, c'est l'esprit. L'esprit, tu vois. Je partage avec quelqu'un ma vie spirituelle, tu vois. Et je me protège du coup, tu vois. Parce que si on n'avait besoin que de Dieu, mais personne tomberait. Tout le monde serait solide sur un roc, tu vois. Mais malheureusement, on s'aperçoit que c'est plus vicieux que ça. C'est l'ennemi est là, malgré qu'on soit avec Dieu. Mais c'est la Bible qui le dit. Veillez, priez. Tu vois, c'est sans arrêt, il faut veiller. On a un ennemi qui veut nous détruire. Il n'est pas là pour rigoler, lui. Lui, il ne nous fait pas de cadeaux. Tu comprends? Et face aux réalités de la vie, qu'il y a des choses que je ne vois pas. Mais si tu ne les vois pas, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui les voit pour toi. Sinon, si tu restes aveugle, tu es en danger. Combien d'adultères dans l'église, dans les églises? C'est simple. On donne notre vie à Dieu et puis on se fait piéger bêtement. Nous sommes plus forts à deux que tout seul. Nous pouvons prévenir l'attaque de l'ennemi. Nous arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Ça, c'est important. Non, c'est pas grave. Non, non, je gère. Je gère. Ça, j'aime bien cette expression-là. Non, non, je gère. Là, tu gères rien du tout, oui. Tu vas voir, quand l'ennemi va t'attraper, tu vas voir ce que tu gères. Tu gères que dalle. Nous pouvons prier ensemble pour des sujets délicats qui seraient restés cachés sans ce partage et dont l'ennemi pourrait en avoir tiré profit. Je ne lui ouvre pas la porte. Je lui ouvre pas la porte. Je partage cette attaque de l'ennemi. Je partage cette tentation de l'ennemi. Je partage ce qui est encore en train de m'emmener dans le péché. Je partage tout ça. Mais j'ai plus honte. Je combats. Mais j'ai plus honte. Si tu rajoutes la honte, si tu rajoutes à la difficulté de te débarrasser de ton péché et que tu rajoutes encore la honte et que tu rajoutes la culpabilité et que tu rajoutes que tu fais ça en secret, tu es mort. Tu vas toujours tourner en rond. Tu vas retomber dedans sans arrêt. Comprends mieux? Tu as commencé à comprendre pourquoi il nous faut un référent? Enfin, la peur, la culpabilité, la honte n'ont plus de prise sur moi, car je partage tous ces fardeaux avec mon référent spirituel qui ne me juge pas et continue de m'aimer sans me juger, malgré ce qu'il apprend sur moi. Alléluia! C'est ça l'Église! La compassion! La miséricorde, mais c'est la grâce de Dieu, les enfants. C'est la grâce de Dieu. On a reçu cette grâce et maintenant on vit avec cette grâce-là. Et quand je reçois la compassion, quand je reçois un témoignage, quand je reçois une confession, je ne suis pas en train de juger. J'ai de l'amour pour la personne, j'ai de la compassion, j'ai de la miséricorde parce que je connais la puissance du péché. Je sais que malheureusement, elle a été prise dans les griffes du péché. Et on va prier ensemble, on va combattre pour la délivrance. Amen! Enthousiaste! Amen, amen, amen! Trois éléments importants sont à prendre en compte pour choisir son référent, outre que ce soit un homme ou une femme de Dieu et qui a la crainte de Dieu dans son cœur. Pour moi, c'est les bases. Les bases, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, tu ne fais pas n'importe quoi. Quand tu as la crainte de Dieu, tu ne vas pas divulguer tout ça à n'importe qui. Tu crains trop le Seigneur pour aller raconter tout ça. Ah, tu sais pas, l'autre jour, elle m'a parlé. Il faut que je te dise quelque chose, on va prier pour elle. Tu vois ça. Non, non, on arrête les bêtises. On garde, parce qu'on a la confiance de la personne. Et c'est sacré d'avoir la confiance d'une personne. On va le voir tout à l'heure dans une phrase, mais quand vous recevez des confessions de quelqu'un, ça a de la valeur. C'est important qu'une personne vous fasse confiance. Et on n'a pas le droit de bafouer cette confiance-là. Amen! D'abord, dans les choses qu'on a besoin de ressentir chez la personne, c'est son authenticité. C'est une personne vraie. Okay? Si vous sentez que la personne est authentique, vous serez plus à même de lui faire confiance. En second lieu, la cohérence de la personne. une personne qui est cohérente. Une cohérence dans sa façon de penser, dans sa façon de s'exprimer, vous mettra davantage en sécurité. Quand elle parle, on sent qu'elle a les pieds sur terre. On sent que quand elle parle, elle est cohérente dans son analyse. Ça va nous mettre en confiance. Enfin, la compassion et une capacité d'écoute. Vous serez plus enclin à vous confier si la personne est de nature à être compatissante. Et quand vous avez le mot compatissante, vous pouvez mettre le versus légaliste, radical. Non, c'est une personne qui comprend ce qu'est le péché dans la vie d'un être humain. Compatissante. Et que sa capacité d'écoute est importante. Ça aussi, une personne qui est assez équilibrée pour savoir vous écouter sans vous interrompre tous les 5 minutes ou tous les 2 secondes. Capable de rester dans le silence et d'écouter. Savoir laisser des temps de silence. Parce que la personne est en train d'accuser le coup de la confession. Elle est dans les émotions. Elle a juste besoin, là, de reprendre son souffle. On l'écoute. On respecte les moments de silence. C'est un moment sacré. C'est un moment de confession. C'est un moment important. Nos histoires ne sont pas destinées à tout le monde. Les entendre est un privilège. Et nous devrions toujours nous demander ceci avant de partager. Qui a gagné le droit d'entendre mon histoire ? Amen ! Amen ! J'ai pas entendu là ! Il y a un beau Amen là ! Qui a le droit d'entendre mon histoire ? Qui mérite d'entendre mon histoire ? Eh ouais, c'est important de livrer son histoire à quelqu'un. C'est important la confiance qu'on met dans la personne. Qui mérite ma confiance ? Si nous avons une ou deux personnes dans nos vies qui peuvent s'asseoir avec nous, garder de l'espace pour notre histoire de honte et nous aimer pour nos forces et nos luttes, nous avons un privilège extraordinaire. C'est ça la relation humaine, la vraie relation humaine, tu vois, l'importance de la relation humaine. Le but de ce rendez-vous divin, vous n'êtes pas en thérapie avec la personne à qui vous allez vous confier. Elle n'est pas là pour vous conseiller, mais elle est là pour vous écouter. Amen. On n'est pas en thérapie, on n'est pas avec un psy. D'accord ? On est là pour faire une confession, une personne qui nous écoute, qui ne nous juge pas et qui continue à nous aimer malgré ce qu'on lui a dit. Nos confessions, nous confessons quoi ? Nous confessons la nature exacte de nos torts. C'est un moment d'authenticité, c'est un moment de vérité. On n'est pas là pour jouer avec la vérité, ni cacher quoi que ce soit, mais partager honnêtement, avec exactitude, ce que vous avez fait, ce que vous avez subi et comment vous avez réagi à ce que vous avez fait. On a fait un inventaire et on va le partager avec quelqu'un. Donc là, on est dans l'écoute. Par contre, ce que tu dis là, c'est le référent. C'est-à-dire, on marche ensemble et si tu veux, on a pris une bonne habitude, si tu veux, c'est de se dire les choses vraiment. Tu vois ? Et c'est comme si que dans le contrat, on dit, et si tu vois quelque chose qui ne va pas en moi, là, tu n'hésites pas, hein, tu me dis. Tu vois, on marche ensemble, compagnons d'œuvre. Et là, hein, mon référent, là, il a des conseils. Là. Oui, oui, ça peut être, ce n'est pas obligé. Ça peut être que là, tu vas trouver quelqu'un, Dieu va te montrer quelqu'un pour la confession. Mais peut-être qu'après, tu vas rencontrer aussi quelqu'un pour la marche. Mais ça peut être aussi les deux. Ça peut être aussi l'occasion de cette personne-là de dire, de créer une amitié, quelque chose. Ou peut-être qu'elle existe déjà, tu vois. Et peut-être que dit, ben, tu vois, maintenant, l'enseignement m'a éclairé, tu vois. Mais j'aimerais qu'on ait de temps en temps un petit rendez-vous de prière, un petit rendez-vous où on parle de notre vie, on parle de mes déceptions, on parle de mes frustrations, on parle de tout ça pour pas que je vive tout ça en solitude. Tu vois, que je ne vive pas ça en solitaire, tu vois. C'est tellement important de parler de ces fardeaux, comme dit la Bible, de ces peines. Tu vois, c'est tellement guérissant. Tu vois, et quelquefois, les gens n'ont pas cette chance-là. Nous, c'est l'esprit de l'Église. L'Église, personne n'est seul dans l'Église. Tu vois, quand Dieu a mis sur mon cœur les solos, c'était parce que l'Église, personne n'est seul. S'il y a, dans ce monde, les gens sont seuls. Mais s'il y a un endroit où les gens ne peuvent pas être seuls, c'est dans l'Église. Parce que l'Église, c'est des pierres vivantes. c'est vous, c'est moi. C'est pas le hasard, c'est divin. Oui, oui, ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, est-ce que ça te dérange que de temps en temps, on fait un rendez-vous et on partage des choses. J'ai besoin de me confier et je voudrais me confier avec toi. Lui, c'est sa décision, mais peut-être que toi, tu ne ressens pas ça. Mais par contre, tu peux dire, oui, je peux faire ça pour toi. Tu vois? On est des êtres humains. Hein? On a besoin d'affinité. On a besoin de sentir aussi l'autre, comment il est et tout ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un va venir te voir et il va dire, je veux que tu sois mon référent. Et moi, je serai ton référent. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a beaucoup d'amour dans tout ça, tu vois. En second lieu, la nature exacte de vos torts ne nécessite pas d'aborder tous les détails scabreux de vos vies. Certaines personnes utilisent cette étape pour indirectement faire, avec une certaine fierté, le récit de leurs frasques ou de leurs déboires. Là, on pervertit la confession. C'est-à-dire que tout d'un coup, la personne va se transformer en victime ou en héros, tu vois, de ce qu'elle a fait. Alors qu'on est en pleine confession, on n'est pas là pour dire, mais heureusement que j'étais là, heureusement que j'ai fait ci, j'ai fait ça, non, calme-toi. Non, on n'est pas là pour ça. Il n'est pas nécessaire d'aller trop dans les détails concernant la raison pour laquelle nous avons fait certaines choses ou pourquoi nous avons agi de telle ou telle façon. Le piège relié à cette étape consiste quelquefois à davantage voir ce que nous avons enduré, être dans une certaine victimisation, au détriment des mots que nous avons infligé aux autres. L'honnêteté de la réalité de cette vie nous amène à reconnaître que nous sommes tous des êtres blessés et nous sommes tous susceptibles de blesser les autres. Les gens blessés blessent les gens. Cela signifie que ceux qui ont été blessés ont tendance à infliger des blessures à d'autres personnes et souvent, malheureusement, à celles qui sont les plus proches. Les gens blessés qui ne sont pas guéris continuent de blesser les gens autour d'eux, malgré qu'ils sont censés les aimer. Oui. C'est notre nature. Donc, on a des choses à confesser parce que on a été, et certains le sont encore, dans cet état de blessure. Par exemple, les gens blessés transfèrent généralement leur colère sur leur famille ou leurs amis proches. Les gens blessés interprètent chaque parole, chaque geste des personnes avec qui ils sont en relation à travers le prisme de leur souffrance et réagissent de façon offensante avec elles. Ça va ? Par peur du rejet, les gens blessés rejettent les autres et même ceux qui les aiment et qui veulent les aider. Les gens blessés compensent trop souvent leur manque d'estime d'eux-mêmes en rabaissant et en diminuant les autres. Les gens blessés sont souvent centrés sur eux-mêmes et sur leur souffrance, au point de ne pas voir qu'ils négligent leurs proches. Et je dis souvent, les gens, c'est pas qu'ils aiment pas, mais c'est qu'ils aiment mal. Les humbles ne se sentent jamais rabaissés parce qu'ils ont une juste vision d'eux-mêmes. Ils ont compris que l'humilité, jumelée au courage, leur permet d'avoir une vision juste de la réalité. Ne considérez jamais l'humilité comme une faiblesse. Car les plus grands dans ce monde sont ceux qui sont petits à leurs propres yeux. Conclusion de cette étape de vérité, c'est à cette étape, plus qu'à toutes les autres, que nous pouvons faire la différence entre ceux qui veulent réellement s'en sortir et ceux qui ne sont pas encore prêts quant à leur transformation. Pour ce rendez-vous, apportez votre inventaire écrit. Fixez un rendez-vous avec la personne choisie en vous assurant que vous aurez tout le temps nécessaire. Parce que je peux vous avertir qu'il y a des fois, le temps passe très vite. Donc il faut beaucoup de temps. Et puis des fois, une boîte de mouchoirs, c'est pas mal aussi. Ceux qui sont parvenus au bout de cette étape affirment unanimement, comme on l'a vu avec Yvonne, que la valeur et les bénéfices de celle-ci ne viennent uniquement qu'après l'avoir accomplie. La douleur et la souffrance s'estomperont grâce au partage. Et une relation plus profonde s'établira avec un autre être humain. Sur le plan spirituel, la paix de Dieu se fera sentir de façon étonnante et dans un cœur allégé et libéré de tout fardeau. La guérison germera promptement. Le défi, c'est d'avouer. Et le mot-clé, c'est la confession. Amen. Est violent avec elle de façon verbale, par exemple. Il la rabaisse tout le temps. Ouais. Et elle, parce qu'elle a subi de l'abus, elle a une mauvaise estime d'elle-même. Donc, pour elle, elle ne voit pas le problème. Parce que, petite valeur, donc si on la piétine, bah, il n'y a rien de choquant. Hein. Et là, il faut lui ouvrir les yeux. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui dise, mais non, tu sais, ça, ce n'est pas normal. Voilà un exemple de confession où la personne va avoir besoin de discernement, de dire, attends, là, non, ça n'existe pas, ça. Ouais. Tout ce qui est autour de l'abus, c'est compliqué, parce que ça déforme la réalité. Et il faut avoir quelqu'un à côté de nous qui n'a pas subi les mêmes choses et donc qui n'a pas les mêmes conséquences dans sa vie pour dire, ah non, je crois que là, il y a un problème, ce n'est pas tout à fait normal. C'est important, hein, ces choses-là. C'est important. C'est important de ne pas être seul. C'est important de ne plus avoir honte. C'est important de ne plus se sentir coupable. C'est important de dire, tout ça, c'était avant. Je suis devenu une nouvelle créature. Donc tout ça, c'était avant. Je n'ai plus à subir tout ça. Je n'ai plus à être sous ce joug de la honte, sous ce joug de la culpabilité. Et la confession fait partie des outils. Ce n'est pas la seule, hein, mais ça fait partie des outils pour se libérer de tous ces fardeaux qu'on n'a plus à porter parce que Dieu nous a libérés de tout ça.